하나님의 말씀.
La parole de Dieu se trouve dans Proverbe chapitre 1 du verset 20 à 33. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, à l'entrée des portes dans la ville, elle prononce ses paroles. Jusqu'à quand stupide aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la connaissance? Revenez pour écouter mes réprimandes. Voici que je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'ai appelé et que vous avez résisté, puisque j'ai étendu ma main et que personne n'y a prêté attention, puisque vous avez rejeté tous mes conseils et que vous n'avez pas voulu de mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur viendra sur vous, quand la terreur viendra sur vous comme une tempête et que le malheur arrivera sur vous comme un tourbillon, quand l'angoisse et la détresse viendront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur conduite et se rassasieront de leurs propres conseils, car l'égarement des stupides les tue et l'insouciance des insensés les perd. Et celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. Il vivra tranquille sans craindre le malheur. Prions pour pouvoir écouter le message de Dieu. Dieu le Père, quand nous recevrons ta parole, que nos âmes prospèrent, ouvre les lèvres de ton serviteur, donne-lui la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. Je prie au nom de Jésus. Attirons l'attention de Dieu. Lisons ensemble le résumé de la parole de Dieu. Dieu est bienveillant. Il donna aux hommes créés à son image la vie de son Fils, le nom de son Fils, la vérité et la puissance qui viennent par le Saint-Esprit. Par conséquent, Dieu prend un intérêt particulier à ces hommes qui sont de lui. Comme l'intérêt de Dieu se trouve dans sa parole, celui qui la reçoit attire son attention. Pour celui qui reçoit la parole dans l'obéissance et se soumet à elle, cette parole et commandement portent des fruits comme bénédiction et vie. Par conséquent, la distinction dans cette vie entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas se prolonge jusque dans le siècle à venir. Attirer l'attention de Dieu, c'est la foi, et la foi prouve que l'on est son homme. Attirons l'attention de Dieu. Dieu aime ses hommes et travaille sur eux par les bénédictions et la vie. Cela ne sert à rien de vouloir les bénédictions et la vie et en même temps renier leurs racines. La parole de Dieu est justement cette racine. L'homme est une créature semblable à un reptile, un être pareil à la poussière. Lions-nous avec Dieu et inspirons son intérêt. Dieu sait là sa victoire. Qui pourrait triompher sans lui? Soumettons-nous à Dieu et devenons ses hommes. Dieu est un Dieu bienveillant. Dieu a créé toute chose et toute créature possède sa propre image. Un oiseau possède l'image de l'oiseau. Mais l'homme seul n'a pas d'image, il n'a pas de représentation propre. L'homme a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. C'est ça l'homme. Donc l'homme est la seule créature qui ne possède pas sa propre image. Donc, Dieu a donné à l'homme une puissance spirituelle qui lui permet de posséder la vie de Dieu. Il lui a donné l'âme et il lui a permis d'entendre sa parole. Et cette grâce spéciale a été octroyée à l'homme. Et Dieu a fait en sorte que l'homme possède la vie de son Fils. Ce n'est pas parce que c'est une créature que Dieu va donner la vie de son Fils. C'est seulement à l'homme qui a été créé à son image et à sa ressemblance qu'il a donné la vie de son Fils. Tous les parents, aucun parent ne donnerait ce qui est propre à son fils à n'importe qui. Dieu a donné la vie de son fils, non pas aux animaux. Il a fait la distinction entre les animaux et l'homme. C'est à l'homme seulement, fait à son image et à sa ressemblance, qu'il a donné la vie de son fils. Et à celui qui possède la vie de son Fils, il a donné la vérité et le Saint-Esprit. Et avant même la création du monde, Dieu avait planifié dès l'origine. C'est pourquoi vous et moi aujourd'hui, nous pouvons contredire les affirmations de ceux qui affirment l'évolution. L'homme a été créé de façon à pouvoir attirer son attention particulière. Dieu ne prête pas intérêt à chaque créature, mais il s'intéresse à chaque homme qui possède un nom de sa naissance. Et la vie de la foi, c'est attirer l'attention de Dieu. Cela ne signifie pas que nous tous nous allons entrer dans la vie éternelle. Notre Dieu a décidé de sa volonté qui permet d'entrer dans la vie éternelle. Tous les hommes possèdent l'image de Dieu, mais ceux qui entreront dans la vie éternelle sont ceux qui feront sa volonté, ceux qui croient selon sa volonté, ou ceux qui ne croient pas selon sa volonté. Le salut, c'est ce qui doit être obtenu selon la volonté de Dieu. Et nous, en ayant la foi selon la volonté de Dieu, de lui plaire. Dans l'Ancien Testament et aussi à l'époque de Jésus, il y avait les pharisiens. Ce n'étaient pas des hypocrites, comme on pourrait le croire. Ils menaient un mouvement de sanctification. C'était un mouvement de sanctification, de sainteté, comme nous, nous menons le mouvement Béret. Donc les pharisiens étaient irréprochables du point de vue moral ou éthique. Aucun ne violait la loi, aucun ne violait la dîme. Ils étaient parfaits. C'est pourquoi le Seigneur Jésus n'a jamais critiqué leur comportement. Il a reconnu ce qu'ils faisaient. Donc, de l'extérieur, ils étaient parfaits, irréprochables. Ils étaient comparés à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors. Mais à l'intérieur de ces tombes, il y a des ossements, des cadavres. L'apparence, ils étaient beaux, mais à l'intérieur, au-dedans, ils étaient comme des ossements. C'est pourquoi Jésus a dit « Malheur à vous, pharisiens, hypocrites !» C'est ainsi qu'il les a condamnés. D'apparence, ils étaient irréprochables. Certains chrétiens se disent « Je vais avoir la vie éternelle avec la vie de la foi que je mène. » Mais Dieu ne reconnaît pas ce genre de critères personnels. Il veut que nous menions la vie de la foi selon sa volonté. C'est pourquoi les sermons sont nécessaires. Les sermons disent « C'est ce que Dieu veut. Sa parole signifie ceci. » Il faut interpréter la parole de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui parlent bien, les éloquents, qui prêchent. La question est de savoir comment comprendre la volonté de Dieu. Si un prédicateur ne comprend pas la volonté de Dieu, il ne peut pas prêcher. La Bible dit « Ceux qui ont été émus par le Saint-Esprit de Dieu ont reçu de Dieu et ils ont écrit avec inspiration. » C'est pourquoi il ne faut absolument pas interpréter personnellement. Certains ont péri parce qu'ils ont interprété à tort et à travers. Donc si on interprète mal la Bible, on périt. C'est pourquoi n'interprétez pas personnellement la Bible. Car ceux qui ont été émus par Dieu ont reçu de Dieu, ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi celui qui enseigne la Bible, un prédicateur, doit être très inspiré. C'est à ce moment-là, avec cette inspiration, qu'il pourra comprendre l'état de l'auteur qui a écrit la Bible. Il y a quatre évangiles, Matthieu, Marc, Jean et Luc, et l'évangile de Jean n'a pas pu être touché par les théologiens. Les théologiens ont pu comprendre les trois autres évangiles, comme l'évangile de Jean est très très spirituel, et Jean à l'époque dans une très grande plénitude du Saint-Esprit. Bien sûr, tous les autres livres ont été écrits avec inspiration, mais l'évangile de Luc est plus particulièrement inspiré. C'est pourquoi les théologiens ont déprécié l'évangile de Jean et ont dit que c'était un livre mystique. Donc, ils ont mis de côté, et avec le temps qui passe, ils l'ont complètement dénigré. Mais nous, les Béréens, nous lisons le plus l'évangile de Jean et nous dépendons de cet évangile plus que tous les autres livres parce que le contenu est très important. Et parmi les épîtres de Paul, tous les épîtres sont spirituels. Mais à partir de demain, je vais faire l'exposition sur les Éphésiens. parce que les Éphésiens est un livre aussi qui est mis à part et boycotté, pour ainsi dire. Mais spirituellement, c'est le livre qui est le plus profond. Parmi les épîtres de Paul, c'est le livre le plus spirituel, le plus universel. C'est pourquoi il est difficile de comprendre sans une inspiration intense. Donc il faut atteindre un très haut niveau de plénitude du Saint-Esprit pour pouvoir atteindre aussi l'état spirituel de l'auteur, pour comprendre le contenu. Donc, on enseigne la parole dans la plénitude du Saint-Esprit pour que les fidèles vivent selon sa volonté. Quelqu'un a dit, « J'ai chassé les démons en ton nom. » Et le Seigneur dit, « Moi, je ne te connais pas. » Celui qui ne fait pas la volonté de Dieu ne pourra pas entrer dans son royaume. Même la mère, les frères, les sœurs de Jésus étaient proches. Jésus a dit, « Qui est ma mère, mon frère et ma sœur ? Seul celui qui fait selon la volonté de mon Père est ma mère, mon frère et ma sœur. » Personne, Dieu ne regarde personne à son apparence. C'est pourquoi il faut faire attention, comprendre ces paroles. Comment pouvons-nous attirer l'attention de Dieu? Où se trouve son intérêt? Ce n'est pas parce qu'on a une belle apparence, qu'on est grand, qu'on est joli, que Dieu va s'intéresser à nous. Dieu est intéressé par sa parole. C'est pourquoi il a envoyé sa parole et il voit comment sa parole est reçue, comment elle est accueillie. Les parents accompagnent leurs enfants à l'école quand il y a une rencontre sportive et les parents ne s'intéressent qu'à leurs enfants dans quelque compétition que ce soit. Portent cet intérêt particulier à leurs enfants et se réjouissent et soutiennent l'équipe de leurs enfants. De la même manière, Dieu a envoyé sa parole. Psaume 107, il envoie la parole et il guérit les malades et sauve de la détresse. Il a envoyé la parole dans chaque pays, dans chaque maisonnée, dans chaque personne. Et comment cette parole est-elle accueillie? Cette parole nous apporte la vie et la paix. Si c'est une maisonnée reçoit la parole, elle la reçoit. Mais si elle refuse, on demande de ôter les poussières, la poussière de ses pieds. Dans Matthieu 25, 35 et plus loin, je séparais les brebis d'avec les boues. Et quand il va séparer les brebis d'avec les boues, ceux qui sont à la droite et à la gauche, à ceux qui seront à sa droite, quand j'ai eu faim, quand j'étais étranger, quand j'avais soif, quand j'étais nu et malade, vous vous êtes occupé de moi. À ceux qui étaient à sa gauche, quand j'étais étranger, quand j'avais faim, quand j'avais soif, quand j'étais nu et malade, vous ne vous êtes pas occupé de moi. Et là, on pourrait se méprendre et croire que les actes mènent au salut. Non, le Seigneur ne veut pas parler d'actes. Quand avons-nous vu étrangers avoir faim, avoir soif, nus ou malades?
이렇게 묻습니다. 바로 하나님의 말씀이 우리에게 다
C'est quand la parole nous a été envoyée à nous tous. À qui? À moi quand j'étais malade, à moi quand j'étais étranger, à moi quand j'avais faim, à moi quand j'avais soif, à moi quand j'étais nu. Donc la Bible est distribuée aux prisonniers en prison. La Bible aussi est distribuée aux hôpitaux, aux malades. Aux étrangers, aux pauvres, aux nus, la parole de Dieu est propagée. Et Dieu est intéressé par l'attitude de ceux à qui la parole a été envoyée. La parole de Dieu a été distribuée à tout le monde. La question est de savoir comment ceux-là obéissent à sa parole, comment ils la reçoivent. C'est ça qui intéresse Dieu. La parole à celui qui est en prison, à celui qui est étranger, à celui qui a faim. Mais cette parole est rejetée. Ils lisent la Bible, mais ne mettent pas en pratique la parole qu'ils ont lue. Les prisonniers reçoivent la parole de Dieu. Certains réussissent quand ils sont sortis de prison. En prison, ils étaient de grands croyants, mais une fois sortis de prison, ils deviennent des hypocrites. Quand ils étaient malades, ils reçoivent la parole de Dieu, mais une fois qu'ils sont guéris, ils retournent à l'impiété. Quand ils étaient étrangers et nus, ils étaient bien décidés à croire. Mais quand les circonstances changent aussi. Et c'est ainsi qu'ils perdent l'intérêt de Dieu. Il faut comprendre que l'intérêt de Dieu se trouve dans sa parole. Partout, là où se trouve sa parole et son intérêt. Donc comment accueillons-nous la parole de Dieu? Nous ne vivons pas tous dans le même environnement. Et la parole de Dieu vient dans chacun de notre environnement. Et Dieu s'intéresse à notre réaction. Comment nous obéissons à sa parole? Les versets que nous avons lus disent « En temps régulier, vous avez méprisé ma parole. C'est pourquoi quand vous demanderez mon aide, je vous mépriserai. Vous avez refusé la connaissance de Dieu, la parole. » C'est pourquoi au moment où vous deviendrez mon aide, quand la terreur arrivera sur vous comme un tourbillon, l'angoisse et la détresse viendront sur vous, je me boucherai les oreilles, je ne vous écouterai pas, je ne vous chercherai pas, je vous fuirai. Pourquoi? Vous avez méprisé ma parole. Je l'ai déjà expliqué avant. Un chrétien méprise Dieu en temps régulier et puis il lui arrive un gros problème. Alors c'est à ce moment-là qu'il se met à jeûner et à veiller toute la nuit et devient un très grand chrétien. Ça ne veut pas dire que sa prière va être répondue. Dieu pourrait très bien fuir. C'est pourquoi il faut être en communion avec Dieu en temps régulier. Quel est l'intérêt de Dieu? Il ne s'intéresse qu'à sa parole. Puisque Dieu est intéressé par sa parole, celui qui la reçoit attire son intérêt. Mais Dieu ne s'intéresse pas du tout à ceux qui ne reçoivent pas sa parole, même si c'est un roi ou même si c'est un noble. Dieu ne s'intéresse absolument pas à ceux qui ne reçoivent pas sa parole. Mais bien aimé, il faut être plus humble, plus humble. Il faut attirer un peu plus l'attention de Dieu. Est-ce que vraiment vous dépendez de Dieu ou pas? Est-ce que je suis en train de cultiver mon caractère ou est-ce que j'attire l'attention de Dieu? Est-ce que je suis un croyant? Notre Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ au monde. Les hommes l'ont tué et il est mort dans l'histoire. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et il l'a élevé dans les cieux devant les témoins oculaires. Et c'est ainsi que je reviendrai vous chercher. Si nous voyons comment le Christ a été traité, comment il a été glorifié, eh bien, c'est aussi notre promesse à nous tous de pouvoir être traités de la même façon. Même si le Christ a été rejeté et persécuté en ce monde, Dieu ne l'a pas persécuté. Dieu, au contraire, l'a ressuscité d'entre les morts et l'a exalté. Les rois de ce monde n'ont pas été ressuscités, mais lui l'a été. Et même après son ascension, il n'a pas envoyé le jour même le Saint-Esprit. Il l'a envoyé 10 jours après. Qu'est-ce que ça veut dire? Si les disciples avaient reçu le Saint-Esprit le même jour, ils auraient été excités. Mais il y a eu un laps de temps de 10 jours. C'est pour faire comprendre que la promesse qu'il avait faite sur terre avait été tenue. Cela signifie aussi que cette même promesse peut être tenue aujourd'hui, 2000 ans après. Nous, les chrétiens, nous devons faire plus confiance à Dieu et dépendre de lui. C'est pourquoi il faut attirer son attention. Est-ce que la parole de Dieu est méprisée en nous, quelque part? Si cette parole est rejetée, Dieu vous rejettera aussi. Les versets disent, vous m'avez rejeté, donc je vous abandonnerai aussi. Celui qui ne méprise pas la parole de Dieu, c'est celui-là, le croyant, c'est celui-là qui mène la vie spirituelle et la vie de la foi. Mais bien aimé, la chair n'est pas permanente. C'est seulement quand nous sommes dans la chair que le Seigneur peut nous commander. C'est seulement quand nous sommes dans la chair que nous pouvons nous concentrer dans notre vie spirituelle pour pouvoir être glorifiés après. Le Seigneur nous demande expressément. Il faut recevoir la parole de Dieu. Et il faut que cette parole-là nous change, nous fasse bouger et nous entraîne. Il faut que nous soyons obéissants à ce point. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole qui est venue dans la chair, c'est Jésus. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole de Dieu et Dieu font un. La parole de Dieu et Jésus font un. Le Saint-Esprit et la vérité font un. Donc il ne faut pas mépriser la parole. Quand nous prions pour que cette parole s'applique en nous, s'accomplisse en nous. Prenons le point et disons, mon âme attire l'attention de Dieu. 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 Il faudrait attirer l'attention de Dieu. Mais si vous laissez de côté sa parole, Dieu vous laisse de côté aussi. Prions tous à haute voix maintenant. Priez pour que la parole de Dieu ne soit pas rejetée dans vos familles. Priez à voix haute.
성령 역사하여 주사 인도하여 주시를 간절히 돕고 원합니다. 하나님의 성령과 은혜와 은치도 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리 모두에게 하나님의 은혜와 능력을 역사하여 주시옵소서.
Le Père agit sur nous tous par le Saint-Esprit et la grâce. Dieu le Père, agis de par ta grâce merveilleuse. Dieu le Père, agis et accorde-nous la grâce. Aide-nous par le Saint-Esprit. Père Saint, aime-nous tous et guide-nous. Dieu le Père, bénis-nous tous, guide-nous par le Saint-Esprit. Que nous tous fassions ta volonté. Aide-nous à ne pas mépriser ta parole. Que nous tous y obéissions.
Dieu
le Père, les Béréens, les membres de l'église Sanglac veulent retourner à la Bible. Qu'aucun de nous ne soit hypocrite, que nous tous recevions ta parole et y croyons comme des saints. Seigneur, aide-nous à nous préparer à quitter ce monde, à faire nos derniers préparatifs. Seigneur, reçois mon esprit, que nous puissions être hardis et avoir cette confiance au dernier moment. Je prie au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous lever si c'est votre première visite dans notre église.
Veuillez vous lever si c'est votre première visite dans notre église.